chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Faux dossier universitaire aux États-Unis. Le FBI a révélé un scandale de corruption de 25 millions de dollars pour des admissions. Certains parents fortunés sont prêts à tout pour que leurs enfants soient admis dans les écoles prestigieuses. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il dans votre pays? Comment rompre avec ces pratiques de corruption liées à l'éducation, selon vous? Alors, dans cette affaire, 50 personnes, dont deux stars de la télé américaine et des chefs d'entreprise, ont été inculpées mardi aux États-Unis. Ses parents sont accusés d'avoir participé à un stratagème de fraude lors d'examens d'entrée à l'université. Les allégations incluent la fraude lors des examens d'entrée et la corruption de responsables de collège pour affirmer que certains étudiants étaient des recrues sportives alors qu'ils n'étaient pas des athlètes. Et de nombreuses écoles ont été ciblées, notamment l'université de Georgetown, celle de Yale, Stanford du Texas, de Californie du Sud, etc. C'est le sujet de la journée et je crois que nous avons déjà un auditeur pour l'aborder. Nous avons Victor qui est au Cameroun, je crois. Bonsoir Victor, comment ça va?
Bonsoir Mabéwa, bonsoir à tous les auditeurs.
À vous la parole.
Oui, cette affaire-là se passe seulement aux États-Unis, alors que ici, chez nous, au Tchad, nous vivons fréquemment cette histoire-là. Parce que quand les étudiants ou encore les élèves sont déjà à l'école, il arrive de fois que ces étudiants ou bien ces élèves-là ne s'en sortissent pas. Alors les parents sont obligés de passer outre pour le passage de leurs enfants. Souvent, ça se passe à l'université. Je prends l'exemple de l'université du Tchad, l'université de N'Djamena, l'université de Moundou, l'université d'Abéché. Donc, les enfants entrent là-bas. Quand ils entrent, de fois, les parents, au lieu de les soutenir pour qu'ils réussissent, ces parents-là préfèrent plutôt de passer outre pour le passage de leurs enfants. Non seulement les parents participent à la corruption éducative, mais aussi les élèves ou encore les étudiants eux-mêmes. J'ai suivi bout à bout un exemple qui s'est passé à l'université de Moundou, qui est au sud du Tchad. Les filles ou encore les garçons viennent monnayer le passage, leur passage en classe supérieure ou encore au niveau supérieur. J'étais surpris. Et de là, on parle encore de notre sexuellement transmissible. Tout ça, ce sont des modèles de corruption qui se passent fréquemment chez nous. Donc, il va falloir que j'en témoigne. J'ai trouvé que ce n'est pas normal. Or, moi, je croyais que ça se passe seulement en Afrique. Et j'étais surpris quand je vois une publication de la VOA qui parle aussi de ce phénomène aux États-Unis. Mais je me pose la question, est-ce que où va le monde? Est-ce qu'on se trouve encore à la conquête de la connaissance? Parce que, beaucoup plus, quand on vient là-bas, l'étudiant ou encore l'élève doit faire des efforts pour aller passer en classe supérieure. Mais du coup, quand l'étudiant ne fait pas des efforts et que son parent vient pour négocier pour son passage en classe supérieure, je pense que ça n'avantage pas du tout. Et là, on n'est pas en train de proliférer ou encore de vulgariser la bonne connaissance. Comment imaginer une administration corrompue, une administration...
Merci beaucoup, Victor, et merci beaucoup Victor pour votre commentaire. Alors on rappelle que finalement le processus d'admission aux États-Unis dans les grandes universités, c'est le sujet partout, il est ultra compétitif avec des parents qui sont prêts à payer des sommes énormes, particulièrement aux États-Unis. Et les écoles réputées sont très largement privées, donc onéreuses. Alors par exemple, on a des chiffres. À Harvard et Stanford, on a seulement moins de 5% des étudiants, qui sont admis en première année 2018-2019 et 5,5% à Columbia. Et le niveau de qualification est de plus en plus élevé pour les candidats. Donc c'est une véritable course pour tous ces étudiants et tous ces parents. On a Patrick en ligne qui est à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Patrick, bonsoir. À vous la parole.
Bonsoir la VOA et bonsoir à tous.
On vous écoute, Patrick.
Ok, merci beaucoup de m'accorder encore une fois de plus la parole ce soir. Par rapport à la thématique du jour, le phénomène faux dossier dans des universités, lorsque j'ai vu ce thème pour l'émission d'aujourd'hui, ça ne m'a pas beaucoup surpris, comme les autres sont surpris, moi, à mon avis. Et c'est un phénomène qui gangrène aujourd'hui presque beaucoup de pays à travers le monde. Si je prends par exemple le cas de la RDC, aujourd'hui, le phénomène faux dossier, il y a même certaines autorités qui se sont retrouvées dans des cas pareils. Lorsque vous voyez des gens qui se livrent à de telles choses, moi je crois que c'est quelque chose à décourager complètement. Par rapport à ces chiffres, qui a été publié par les FBI, donc l'émission, la somme plus de 25 millions de dollars, moi je crois que c'est quelque chose qui a...
Oh, c'est bien dommage. On a perdu Patrick. Alors je vais lire son commentaire pour qu'on puisse le réconforter par rapport à la ligne qui vient de sauter. Patrick de Lubumbashi, il avait écrit sur notre Facebook: les gens ont tendance à aller au-delà ou violer la règle du jeu sur tous les plans. Cette question, ce n'est pas seulement aux États-Unis, même en Afrique, particulièrement en RDC, dit-il. Il y a les autorités qui sont censées mettre de l'ordre, mais elles sont à la base de certains abus. Ce fléau n'épargne aucun pays à travers le monde, dit-il, Patrick, que nous venons juste d'avoir. Nous avons également le commentaire de Amadou Boubé, qui lui a écrit sur notre Facebook que ce genre de choses se passe donc aussi dans les pays dits de grande démocratie. C'est la question de Amadou, l'interrogation, dirons-nous, de Amadou Boubé, alors qu'il cesse de mystifier, ajoute-t-il. Et nous avons en ligne Claudio, qui est également en République démocratique du Congo. Claudio, bonsoir, à vous la parole.
Oui, bonsoir la VOA. Je suis d'abord désolé d'entendre que les États-Unis aussi peuvent faire des genres de pratiques. Je ne m'entendais pas à ça. C'est vraiment le cas de mon pays, la RDC. La RDC, vraiment, la corruption est devenue comme une maladie contagieuse. Ça débute, ce n'est même pas au niveau universitaire, mais ça débute par les autorités du pays. Ce sont eux qui favorisent d'abord ces pratiques-là. Ils font semblant de grimacer les gens, soi-disant de rompre la corruption. Mais non, ça continue. Ce sont eux qui débutent. Je prends l'exemple des élections qui viennent de se passer. Si ce n'était pas la corruption, Martin Fayoulou ne devait pas continuer à réclamer la vérité des urnes. Donc ce sont eux qui débitent. Quand un même pratique, c'est ça, comment nos autres ici, les cadres universitaires, ne peuvent pas les pratiquer. Ce sont eux. Alors moi, je ne vois aucune façon, ou je ne vois même pas de quelle façon ou de quelle manière on peut encore... cette maladie qui touche la RDC à ce moment. Vous savez, la RDC est classée parmi ces 30e pays qui est corruptible au monde. On venait juste de publier ça il y a quelques mois passés, je pense. La RDC, vraiment, bon, c'est dommage, hein. on ne sait pas avec quelle autorité qui peut changer ces pays.
Merci beaucoup Claudio pour votre commentaire. Alors on revient sur cette affaire effectivement des faux dossiers universitaires aux États-Unis. Chacun le sait, hein, surtout si l'on a déjà présenté un dossier d'admission en université. Il faut savoir que c'est un processus extrêmement stressant et en particulier pour les enfants dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et à chaque stade de ce processus, il y a aux États-Unis des professionnels de l'éducation qui aident les familles qui ont les moyens surtout. Alors, selon l'Association des consultants éducatifs indépendants, le prix moyen horaire est de 200 $ et il y a des forfaits jusqu'à 10 000 $ ou plus. On a un auditeur en ligne. Trésor, bonsoir, comment allez-vous ?
Ok, je suis bien. Comment ça va, madame ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Trésor, vous êtes en République démocratique du Congo, on vous écoute.
Ok, ça va. Les procès des faux dossiers, ça ne circule pas uniquement en Amérique. Donc moi, je peux observer cette situation-là pour tous les pays. Donc, pour tous les pays qui concernent l'Afrique et l'Amérique. Parce que moi, j'ai vécu ça ici, en Gaspésie orientale et par ailleurs. Il n'y a pas que la question qui peut se poser que non, c'est seulement en Amérique qui se régule tout ça. Ça va. Et quand même, c'est un procès inacceptable. Donc, on ne peut pas accepter d'une manière exceptionnelle. Il faut d'abord examiner la source. Des procès. Parce que s'il y a beaucoup de faux dossiers, là, il ne faut pas bien accepter d'admettre tout.
Merci beaucoup, Trésor, pour votre commentaire. Je voudrais lire le commentaire de Félix, qui est en Côte d'Ivoire. Il a écrit sur notre Facebook « Je suis surpris que même les États-Unis s'adonnent à de telles pratiques », dit-il. C'est bien que les parents visent les prestigieuses écoles pour leurs enfants, car cela fait honneur à la famille, dit-il. Cependant, tous les enfants ne vont pas dans des écoles d'excellence, rappelle-t-il. Un enfant va dans une école d'excellence que lorsqu'il a le niveau. Logiquement, si la procédure d'admission est fausse et biaisée, forcément les résultats de l'enfant ne seront pas subséquents, simplement parce que ce dernier n'a pas le niveau. C'est comme si l'on jetait une pierre dans une mare d'eau, dit-il. La pierre va nécessairement au fond de l'eau. Très belle image. Alors il poursuit. Donc mieux vaut pour les parents d'orienter leurs enfants vers des écoles où ceux-ci n'auront pas trop de difficultés. Ce fléau est aussi présent ici en Côte d'Ivoire, dit-il, avec l'achat de diplômes, les fausses moyennes scolaires. Ce qu'on oublie, rappelle-t-il, est que l'on ne peut pas acheter le niveau d'un élève, et il dit que les lacunes sont traînées jusque dans les administrations. C'est le commentaire de Félix qui est en Côte d'Ivoire, et on a un auditeur en ligne, c'est Vincent. Vincent qui est au Bénin. Bonsoir Vincent, à vous la parole.
Bonsoir chers journalistes, bonsoir chers auditeurs de la radio VO Africa depuis Amérique.
Alors vous pensez que c'est grave, comme vous l'écrivez sur notre Facebook, pour ce grand pays comme les États-Unis? On vous écoute.
Effectivement, c'est très grave, parce que c'est très surprenant d'assister à cela aussi, comme un pays de grande démocratie dans le monde entier. Ici, c'est un problème fondamental dans le monde entier, surtout au Bénin et aussi en Afrique. Cela se passe très bien, énormément au Bénin ici. Avant, les arrêtés, les tests et les lois aussi, sur le plan éducatif, nous disaient que si quelqu'un a travaillé et parmi, on retrouve les trois premiers du Bénin au bac, que ceux-là iront directement à l'étranger sans passer un concours ou bien un test. Et aussi ceux qui ont les moyennes à partir de 14, ceux-là vont faire les écoles nationales. Mais depuis 5 ans comme ça, cela a changé du jour au lendemain, et les trois premiers partiront encore au test avant d'aller au concours, avant d'aller aussi à l'étranger. Et aussi, ceux qui ont les 14 comme moyenne, les 16, les 17 comme moyenne aussi, n'ont pas accès aussi dans les écoles nationales à l'étranger ou bien dans les écoles nationales au Bénin ici. Mais ce sera aussi une panne pour l'éducation nationale. Alors que sur le plan fondamental, on a dit que l'éducation, la santé et bien d'autres sont réservés sérieusement pour l'État. Mais si l'éducation est en panne, comment va développer nos pays? Cela s'est passé en 2017 ou bien en 2016 ici au Bénin, dont nous avons un fils d'un département vraiment qui est écarté sur la scène politique. Et celui-là a été premier, bien sûr, sur le plan national. Il avait fait école catholique dans la place. Et on a dit que, à la veille de son départ, on a dit qu'il doit passer par un concours avant d'aller à l'étranger. Mais on l'a échoué. Et l'élève, là, ce candidat, ce bachelier-là, qui a réuni les 18 de moyenne, n'a pas pu s'inscrire dans les écoles nationales et autres. Mais vous voyez que c'est très grave. C'est très grave. Cela se passe aujourd'hui. Jusqu'à présent aussi, ça se passe. On nous a dit, si quelqu'un a 14 ans comme moyenne, quand il fait la série D, il doit directement s'intégrer dans l'école de la médecine. Mais depuis des années, cela n'existait plus ici au Bénin. C'est les enfants des riches qu'on retrouve là-bas. Ceux qui ont des moyennes comme 10, qui se retrouvent là-bas. Mais c'est très grave.
Si merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour votre commentaire. Alors on parle dans votre calling show quotidien à votre avis notamment de l'affaire des faux dossiers aux États-Unis, hein, c'est la question du débat, et à ce propos on a ce genre de situation en sachant que 5 personnes ont été arrêtées mardi en Californie accusées d'avoir aidé des Chinois à obtenir leur visa étudiant en fraudant un examen d'anglais. Les accusés ont contrefait des passeports pour engager 19 personnes chargées de passer l'examen à la place des étudiants et permettre à ces derniers d'obtenir un visa pour les États-Unis. Et la fraude aurait duré un an entre 2015 et 2016 dans différents centres d'examen à Los Angeles et ailleurs. Une 6e personne est poursuivie, habite Taïwan. Alors des enseignants d'université californienne qui attirent de nombreux étudiants chinois se plaignent depuis plusieurs années du niveau très faible de certains élèves en anglais. Plusieurs affaires de fraude ont déjà été mises à jour. Voilà, on en arrive donc à des situations comme celle-ci, entre autres. On a un autre auditeur en ligne. Lansine Kaba, qui est en Guinée. Bonsoir à vous, la parole.
Oui, bonsoir, madame. Voilà, justement, je suis comme un des battants de nos amis, que mon confrère du Cameroun, c'est que le fournisseur généralement dans le monde et plus particulièrement en Afrique, c'est que les bourses octroyées dans le continent africain, les bénéficiaires ne sont que les parents riches et les enfants dont les parents sont replacés, par exemple, les gros cadres, les dignitaires de l'État, c'est-à-dire les ministres. Or, tous les enfants qui se sacrifient pour apprendre très bien, pour aller étudier, ceux qui n'ont aucune chance d'aller étudier à l'extérieur. Vous pouvez même retrouver des parents qui obligent même leurs enfants à aller étudier à l'extérieur, alors que l'enfant n'a aucune volonté d'étudier. Voilà. Donc maintenant, comme l'enfant, lui, c'est-à-dire son souci malien, il faut envoyer, l'enfant à l'extérieur pour aller étudier. Oh, comment il peut aller étudier et à l'extérieur alors qu'il n'a rien foutu d'abord sur le banc dans son pays d'origine? C'est là le problème maintenant. Pour ce faire, il faut aller voir, dans les écoles d'origine.
Merci beaucoup Lancine, je suis désolée, on est obligé de vous arrêter, on a des personnes qui attendent pour parler, mais je voudrais citer le commentaire de Berry qui dit cette pratique existe aussi ici à l'université de l'UOM au Kassai Oriental en RDC, hein, c'est l'université de Mbujimaye. Il y a le commentaire de Bertin Tomnabel qui est au Tchad et il dit que cette pratique existe aussi ici à l'université de Mundu, hein, c'est dans le sud-ouest, une très belle université écouter un autre auditeur. On a parlé tout à l'heure. Nous avons Marie-Jeanne Abéga qui, elle, est surprise que cela arrive également aux États-Unis. Elle dit c'est une pratique courante ici. Elle est au Cameroun. Les enfants des pauvres n'ont que leurs yeux pour pleurer, dit-elle. Pour y remédier, il faut éradiquer le favoritisme, la corruption par des sanctions fortes aux contrevenants. Et avant de prendre un auditeur, il y a le commentaire de Moïse qui dit chez nous c'est habituel et ce sont généralement les mandataires publics qui achètent la conscience des autorités académiques pour leur octroyer des diplômes de doctorat avec très grande distinction. Moïse qui est à Goma. Un autre auditeur. Haruna Baldé, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Voilà, moi, c'est déplorant de cette nouvelle qu'on vient d'entendre aux États-Unis en tant qu'un pays où le mérite d'abord est priorité. Mais bon, pour revenir dans mon pays, le Sénégal, en 2017, ce même cas avait fait un grand tollé ici au Sénégal. Il y avait une fuite lors du baccalauréat général en 2017 et ça avait vraiment fait du bruit sur les réseaux sociaux un peu partout jusqu'à ça coûté trop cher à la direction même parce qu'on avait relevé le directeur de l'office du bac ici à ses fonctions. Et je crois que ce problème, ce n'est pas au niveau des universités aussi, il faut descendre un peu plus au bas, parce que même dans les écoles, au lycée, au collège, il y a toujours cette pratique-là. La corruption y est fortement représentée parce que c'est inadmissible, un élève qu'on partage la même classe, qu'on voit, on connaît ses compétences et lors des examens, on voit qu'il est des moyens vraiment extraordinaires. Et c'est un peu étonnant et cela vraiment laisse des doutes certainement dans l'esprit des gens.
Un grand merci pour votre commentaire. Avant de prendre un autre auditeur, je lis celui de Lambert qui est en RDC. Il dit qu'il y a un processus à suivre et je crois que si ses parents suivent ce processus, ils n'auront plus à vivre sous la menace d'une poursuite judiciaire. Car dans un pays comme les États-Unis, dit-il, la corruption n'est pas à encourager et nulle part ailleurs, non plus d'ailleurs. Il y a Alain qui a dit c'est déshonorant pour un pays qui se dit modèle. Quant à Maître Francis, qui est en RDC, il dit « Je suis complètement sidéré de savoir que la corruption touche le cœur de la science aux États-Unis. » On a un auditeur.
Oui.
Brahima Doumbia, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir à tous. Beaucoup de personnes ont l'impression que les pays développés ne connaissent pas ce phénomène, alors que ce n'est pas le cas. Pratiquement tous les États, tous les pays, mais c'est peu que dans les pays africains, c'est beaucoup le cas, puisque quand on expose que la corruption existe, cela encore nous ruine. Et quand on prend le cas du Mali, généralement, les examens de fin d'année, des bacs, parfois vous avez l'impression que ce sont des sujets qui se volatilisent comme ça, et tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Et les sujets du bac, parfois vous les avez à la veille de l'examen, ou deux jours, trois jours, à la veille de l'examen. Je pense que cette sinopotisme, cette corruption de certains individus doit cesser, et tout le monde doit prendre conscience que si le niveau des élèves baisse aujourd'hui, c'est parfois nous-mêmes, c'est nous qui devons agir, c'est nous qui devons faire en sorte que des élèves méritants puissent réellement aller de l'avant et compétir, pourquoi pas, sur le plan international, puisque parfois ce sont des bourses qui sont octroyées à ces enfants-là pour qu'ils aillent étudier en Algérie ou autre quand même. Si les plus méritants ne partent pas et qu'ils passent sur la base de la corruption, je pense que c'est une mauvaise image, surtout pour les États africains et surtout.
Merci beaucoup Brahima Doumbia au Mali. On prend tout de suite Thierry qui est à Bujumbura. Bonsoir à vous la parole.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs et même si je vous entends très difficilement, je ne sais pas si vous m'en sauvez Nathalie.
Oui, très bien, allez-y, exprimez-vous.
Écoutez Nathalie, cette pratique est monnaie courante à Bujumbura et ici je vois que dernièrement je discutais avec un ami et il y avait un étudiant qui fréquentait une université que je ne précise pas le nom, mais il a été attrapé en tricherie et directement il a été envoyé. Mais par contre j'ai trouvé que cet étudiant a tout de suite fréquenté une autre université. Alors ça exige que cet étudiant ne doit jamais fréquenter n'importe quelle autre université avant 2 ans. Donc vous comprenez très bien qu'il y a toujours la tricherie, les faux dossiers qui existent aux États-Unis, même au Burundi, c'est monnaie courante. Donc pour cette raison, moi je trouve que les personnes qui ont la grande responsabilité dans ça, ce sont nos trois catégories. D'abord, il y a a les parents. Les parents qui toujours cherchent des facilités, qui toujours cherchent à ce que l'enfant réussisse trop vite et trop rapidement, sans jamais tenir compte de ce que l'enfant a, a comme bagage. Et aussi, il y a les enseignants. Les enseignants qui
15 secondes, Thierry, 15 secondes, on termine.
C'est l'État. L'État qui doit fournir beaucoup d'efforts pour éradiquer ce problème de favoritisme et de fainéantisme parce qu'un pays qui n'a pas d'éducation forte ne peut pas vraiment se développer. C'est un vrai haut développement. Merci beaucoup.
Nathalie. Merci beaucoup Thierry pour cette conclusion. C'était Nathalie Barge avec vous à la production. Josèle Morissin, à très bientôt. Au revoir.